Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, nous avons abordé le fait qu'il existe quelques exigences pour ceux qui voudraient, dans la parole, glaner ce que Dieu veut que nous sachions. La Bible n'est pas un livre accessible à tout le monde. Elle n'est accessible qu'à ceux qui l'abordent, en satisfaisant certaines exigences de base. Et nous avons parlé de qui pour l'étude biblique. Qui peut réellement comprendre la Bible? Nous avons proposé 6 principes, en réalité 5, et un 6e, qui était la prière. Il faut naître de nouveau, se montrer diligent dans son étude, avoir un grand désir, régler la question du péché dans sa vie, pour qu'il y ait une sainteté manifeste. Et il faut la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui constitue véritablement notre enseignant. Et après avoir examiné votre vie, et si vous comprenez ses priorités, et être disposé à vous y engager, en baignant tout cela dans la prière, alors vous êtes la personne qui peut comprendre la Bible. Vous êtes la personne à qui Dieu ouvrira les pages de son livre et donnera la vérité. Maintenant, je reconnais que même une personne non régénérée pourrait un tout petit peu comprendre l'histoire de la Bible. Elle pourrait comprendre quelques-unes des paroles de la Bible, mais elle n'aura jamais la connaissance biblique dans le sens où cela se vérifierait dans sa vie. On pourrait acquérir une certaine connaissance intellectuelle en lisant, en comprenant et en étudiant jusqu'à un certain niveau, mais ce ne sera jamais le genre de connaissance dont parle la Bible, parce que cela ne se répercute jamais dans la vie pratique. Ainsi, ce que nous disons, c'est le fait qu'à moins de remplir les conditions, la Bible ne prendra jamais vie dans votre existence, et par conséquent, dans la pensée hébraïque, vous ne la saisirez donc vraiment jamais. Vous ne la comprendrez pas vraiment tant qu'elle ne s'est pas manifestée dans votre vie quotidienne. À présent, le qui étant donné, examinons le comment ce soir, et c'est tellement difficile de savoir par où commencer avec ce livre incomparable. Je ne sais pas si vous avez jamais réellement pensé à la magnificence de la Bible et au privilège que nous avons de l'étudier, mais je crois que pour ce soir au moins, vous serez en mesure de vous concentrer sur quelques-unes des choses formidables qui vous attendent dans l'Écriture quand vous l'ouvrez. Il y a de cela quelque temps, j'ai lu le point de vue d'un architecte sur la Bible, et j'aimerais partager cela avec vous pour commencer. La Bible est comparable à un magnifique palais, construit avec de la pierre précieuse orientale, et comportant 66 chambres majestueuses. Chacune de ces pièces est différente de ses pairs, tout en étant parfaite dans sa beauté individuelle, tandis qu'ensemble, elles forment un édifice incomparable, majestueux, glorieux et sublime. Dans le livre de la Genèse, nous entrons dans le vestibule, où sont immédiatement présentées les archives des grandes œuvres de Dieu, dans la création. Ce vestibule donne sur le palais de justice, qu'en traversant, nous parvenons aux galeries des livres historiques. Ici, nous trouvons accrochés sur les murs des scènes de bataille, des actes héroïques et des portraits des vaillants hommes de Dieu. Au-delà de la galerie des images, se trouve la chambre des philosophes, le livre de Job, que nous traversons pour entrer dans la salle de musique, le livre des psaumes. Et ici nous nous attardons, fascinés par les plus grandes harmonies qui soient jamais parvenues aux oreilles humaines. Nous arrivons ensuite au bureau des affaires, le livre des proverbes, tout à fait au centre duquel se trouve cette devise « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples ». Quittant le bureau des affaires, nous passons au département des recherches, l'Ecclésiaste, ensuite à la véranda, Cantique des cantiques, où nous accueille l'arôme parfumé des plus beaux fruits, des plus belles fleurs et du plus doux des chants des oiseaux. Nous accédons alors à l'observatoire où les prophètes et leurs puissants télescopes guettent l'apparition de l'étoile brillante du matin, avant l'aube du Fils de la justice. En traversant la cour, nous atteignons la chambre d'audience du roi, les évangiles, là où se trouvent 4 portraits grandeur nature du roi, qui révèlent les perfections de son infinie beauté. Puis nous entrons dans l'atelier du Saint-Esprit, le livre des Actes, et plus loin la salle du courrier, les épîtres où Paul, Pierre, Jacques, Jean et Jude s'activent sur leur table, sous la direction personnelle de l'Esprit de vérité. Et finalement nous pénétrons dans la salle du trône, le livre de l'Apocalypse, et là, nous sommes ravis par le puissant volume d'adoration et de louanges adressé au roi, intronisé, qui remplit la vaste pièce, tandis que dans les galeries adjacentes et le hall du jugement se trouvent des scènes solennelles de malheur, ainsi que de merveilleuses scènes de gloire associées à la manifestation prochaine du roi des rois et du seigneur des seigneurs, un voyage rapide à travers l'Écriture. Ô la majesté de ce livre, de la création à l'aboutissement, comme il nous incombe de nous montrer diligents dans notre étude. Comment nous y prenons-nous? Premièrement, comment parvenons-nous réellement à comprendre la Bible? Point numéro 1. Lisez-la. Assez simple, lisez la Bible. C'est là que débute l'étude de la Bible, avec la lecture, et franchement, beaucoup de gens n'arrivent jamais tout à fait à ce niveau. Ils grignotent. Ils ne la lisent jamais vraiment. Ils lisent beaucoup à son sujet, peut-être dans des livres par-ci et par-là, mais ils ne lisent pas vraiment la Bible. Pourtant, il n'existe aucun substitut à la lecture de l'Écriture. Nous devons être totalement engagés à sa lecture. C'est là que tout débute. Et ce que je suggère aux gens, c'est de s'efforcer de lire toute la Bible une fois par an. Pour commencer, nous allons utiliser l'Ancien Testament, comme, je me réfère à ce niveau, à l'Ancien Testament. Vous commencez avec l'Ancien Testament. Essayez de le lire une fois par an. Il y a 39 livres, et si vous lisez pendant environ 20 minutes par jour, vous augmentez ou réduisez légèrement ce temps, en fonction de votre vitesse de lecture. Vous parvenez en général à parcourir l'Ancien Testament en un an. Je me souviens qu'au séminaire, le docteur Feinberg, qui était un grand mentor pour moi, un merveilleux homme de Dieu, et qui en savait si long au sujet de l'Ancien Testament, que cela épatait tout simplement les étudiants. Vous voyez, un des étudiants a essayé de le piéger une fois. Il lui a dit, « Docteur Feinberg, qu'est-ce qu'il y a dans 1 Roi 7:34 ?» en donnant juste un passage au hasard. Il le marmonnait dans son esprit en hébreu, le traduisait ensuite et nous disait ce qui s'y trouvait. Il m'a dit un jour, « J'essaie de lire un livre chaque jour, juste pour rester à la page. Quel genre de livre ? » lui demandai-je. « N'importe quel livre. Un livre sur l'art, un livre sur l'histoire, un livre sur la vie d'un individu. N'importe quel livre, un par jour, pour pouvoir rester à la page avec les choses. » Je lui ai dit un jour, avec votre lecture d'un livre par jour et toutes vos études de l'hébreu et l'écriture des commentaires et l'enseignement de tout un tas de cours, avez-vous le temps de lire la Bible? Et il a répondu, je lis la Bible. Je lis la Bible en entier, 4 fois par an, et je le fais depuis je ne sais combien d'années. C'est là que tout commence, braves gens, et rien ne peut remplacer la lecture de la Bible. Commencez avec l'Ancien Testament et contentez-vous de le lire en entier. Maintenant, la langue hébraïque est une langue très simple. Elle ne comporte pas les nobles maximes de la pensée grecque. Ce n'est pas une langue théorique. Il ne s'agit pas d'une langue conceptuelle. Ce n'est pas une langue philosophique qui implique beaucoup de notions abstraites. C'est une langue très simple, très concrète. En fait, en tant qu'étudiant au séminaire, j'ai trouvé l'étude de l'hébreu infiniment plus facile que celle du grec. Ce n'est tout simplement pas une langue compliquée, en règle générale, et elle se réfère aux choses dans des termes concrets et très simples. Vous pouvez donc lire, à travers le flux et les récits de l'Ancien Testament d'un trait, la plupart du temps, et juste continuer d'avancer, et chaque année parcourir à nouveau et encore l'Ancien Testament, et commencer à construire une compréhension tandis que vous lisez. Et je suggère qu'en lisant la Bible, que vous preniez des notes en marge des pages que vous ne comprenez pas, et si vous le faites, vous verrez se produire quelque chose de très intéressant. Au départ, vous aurez beaucoup de choses, et au fur et à mesure que le temps passera, vous commencerez à supprimer certaines de ces choses de la marge, car en lisant et en relisant, tandis que vous progresserez de Genèse à Malachie, vous trouverez une compréhension bien à vous qui répondra à certaines de vos questions. Les questions qui ne trouvent pas de réponse dans votre lecture peuvent faire l'objet de votre étude individuelle, dans un commentaire, ou une autre source pour en saisir le sens. Mais commencez par lire la Bible, tout simplement. Ne soyez pas submergés. Oh, comment puis-je parvenir à apprendre tout cela? Comment gérer chaque verset? Commencez tout simplement et lisez à travers l'Ancien Testament. Et je propose que vous le fassiez chaque année, au moins une fois. Maintenant, quand vous parvenez au Nouveau Testament, j'ai un plan différent, et j'ai déjà partagé cela avec vous, mais je vais vous le donner à nouveau, pour la lecture du Nouveau Testament. Et en passant, je pense que l'objectif majeur devrait être de lire le Nouveau Testament. Je le crois vraiment, et cela est fondé sur l'Écriture. Dans Colossiens, par exemple, 1:24, Paul dit, plutôt le verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » En d'autres termes, Paul dit, « Je suis appelé par Dieu pour vous communiquer le mystère caché. » Maintenant, le mystère est fondamentalement la révélation du Nouveau Testament. Et Paul dit, « Je suis apôtre du mystère » dans Éphésiens, chapitre 3, ce qui fait que l'objectif majeur de son ministère était la nouvelle révélation. Et il ne fait allusion à l'Ancien Testament que dans la mesure où il est illustré, élucidé et soutenu par le Nouveau. Ainsi donc, le message du Nouveau Testament constitue l'aboutissement de la révélation. C'est ce qui incarne et englobe tout ce qui est de l'Ancien et inclut tout ce qui forme le Nouveau. Dans un certain sens, le Nouveau Testament vous donnera un résumé de l'Ancien Testament, tout en vous conduisant au-delà, dans la plénitude de la révélation. Ainsi, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous devez prendre plus de temps, étant donné qu'il explique l'Ancien. Et c'est parce qu'il est écrit en grec, une langue beaucoup plus complexe, peut-être aussi plus difficile à comprendre dans certains cas, pas tout le temps, mais la plupart du temps. C'est un peu plus difficile, du fait du caractère abstrait de cette langue, qui s'exprime en concept plutôt qu'en récit. Et nous devons donc faire preuve d'une plus grande diligence pour étudier le Nouveau Testament. À présent, voici comment j'ai procédé et j'ai adopté cette méthode lorsque j'étais au séminaire. J'ai commencé avec 1 Jean, et j'avais décidé de lire 1 Jean chaque jour pendant 30 jours. Et c'est ainsi, je crois, qu'il faut procéder. Le premier jour, vous vous contentez de lire 1 Jean. Et beaucoup de gens qui se sont assis et ont lu 1 Jean se sont rendus compte, après l'avoir fait, que c'était la toute première fois qu'ils lisaient tout un livre d'un trait. Beaucoup de gens ont l'impression que la Bible est une collection de versets. Vous savez, je me souviens, quand j'étais enfant, nous avions une boîte en plastique contenant des versets bibliques sur la table de notre cuisine. C'était notre espèce de méditation quotidienne. Et on pouvait les coller dans n'importe quel ordre, sans que cela ait beaucoup d'importance. Il suffisait d'en tirer un seul. En voici un qui est bon. Oh, c'est un verset extraordinaire. Et on pouvait juste les sortir, les mélanger sur la table et les remettre dans n'importe quel ordre. Ce n'est pas ainsi que la Bible a été écrite. Lorsqu'un livre commence, il commence quelque part, et lorsqu'il se termine, il se termine quelque part. Et entre-temps, il se développe jusqu'à la fin. Et la plupart des gens ne suivent pas le flot dans leur lecture. Vous devez apprendre à lire un livre. Vous vous asseyez donc et vous lisez 1 Jean. Cela vous prend 25 ou 30 minutes, à moins que vous ne fassiez une lecture de rattrapage, sans qu'on puisse dire combien de temps cela vous prendra. Quoi qu'il en soit, si vous suivez le rythme d'Evelyn Wood, vous pouvez le lire ainsi 4 ou 5 fois et en finir. L'objectif, cependant, est de le lire d'un trait le premier jour. Deuxième jour, lisez-le jusqu'au bout encore une fois. Troisième jour, lisez-le en entier. Quatrième jour, lisez-le à nouveau. Cinquième jour, lisez-le jusqu'au bout. Vous vous contentez de vous asseoir et vous le lisez. Maintenant, autour du 7e ou du 8e jour, vous commencerez à vous dire, « Eh bien, ce truc commence à devenir un peu lourd. Je commence à en avoir assez. C'est la partie la plus difficile. » Vous continuez, et environ vers le 15e ou le 16e jour, cela m'étonnait souvent. Eh bien, j'ai saisi ce truc. Alors j'ai poussé un peu plus loin. Je me souviens, quand je suis parvenu au 30e jour sur 1 Jean, j'ai dit, « Je ne comprends pas vraiment ce livre. » Et je suis allé jusqu'à 90 jours avant de terminer. 90 jours à lire, 1 Jean d'un trait. À présent, après 30 jours, si vous vous en tenez à 30, vous aurez une formidable compréhension de ce livre. Si quelqu'un vous dit, « Où est-il dit dans la Bible que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste ?» Vous direz, « Oh, c'est facile, 1 Jean, chapitre 1, à la page de gauche, la colonne de droite, au milieu de la page, parce que vous serez capable de le visualiser. Vous serez littéralement capable de le voir dans votre esprit. » Les gens me demandent toujours, « Pourquoi continuez-vous à utiliser la version King James? Pourquoi n'adoptez-vous pas la version New American ou New International? Parce que je visualise ma Bible. Je trouve les choses à partir de leur position dans ma vision. En d'autres termes, mon esprit a pris une photo mentale de la page. Et je peux vous dire, je ne pourrais pas me souvenir de tous les chapitres de la Bible, mais je suis en mesure de vous indiquer à peu près à quelle page trouver quoi. Donnez-moi une nouvelle Bible, et je suis perdu. Je pourrais finir par devenir un mormon si je m'aventurais à changer de Bible. Je ne me retrouve pas dans une autre Bible. Donc, ce que vous devez faire, c'est lire un livre en entier, 30 fois, et au bout des 30 fois, vous aurez vraiment ce livre dans votre esprit. C'est foncièrement ce que je fais chaque fois que je prépare un message. Je me contente de lire d'un trait et de le lire encore en entier, et le lire encore jusqu'à ce que le livre tout entier entre au fond de mon esprit, sous forme d'une perception visuelle que je vois dans mon esprit. À présent, en faisant tout cela, c'est quelque chose que je vais également suggérer. Prenez une petite carte et notez le thème majeur de chaque chapitre. Le thème majeur de chaque chapitre, d'accord? Maintenant, tandis que vous le faites, vous l'écrivez tout simplement sur une carte, chaque jour quand vous lisez le livre. Contentez-vous de regarder cette carte et parcourez la liste. Et ce qui va se passer, c'est que vous apprenez le contenu des chapitres. Vous commencerez à apprendre ce qu'il y a dans les chapitres. Maintenant, vous dites, « J'ai fini de lire 1 Jean pendant 30 jours. Maintenant, où dois-je aller ?» Je vous propose à présent d'aller vers un grand livre du Nouveau Testament. Rappelez-vous que jusqu'ici, vous avez lu le récit de l'Ancien Testament. Vous l'avez tout simplement lu d'un trait pendant 20 minutes chaque jour. À présent, vous allez vers un grand livre, et je vous suggère de passer de 1 Jean à l'Évangile de Jean. Vous dites, « Mais c'est 21 chapitres !» C'est exact. Vous les divisez donc en 3 sections. Lisez les 7 premiers pendant 30 jours, les 7 seconds pendant 30 jours, et les 7 troisièmes pendant 30 jours. Si bien qu'à la fin de ces 90 jours, vous aurez très bien lu et maîtrisé le contenu de l'Évangile de Jean. Et à ce propos, vous aurez également eu votre petite carte 3x5 sur les 7 premiers chapitres, les 7 seconds et les 7 troisièmes, étant donné qu'il y en a 21, ce qui fait que vous aurez mémorisé le thème majeur de chaque chapitre. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à faire ça, c'était impressionnant la rapidité avec laquelle je retenais les choses du Nouveau Testament. Je voulais constamment m'assurer de ne pas avoir de problème de concordance, craignant d'être incapable de trouver quoi que ce soit dans la Bible et de me retrouver obligé de regarder au dos. Où est ce verset? Je voulais donc apprendre ces choses, et c'est ce que j'ai fait avec l'Évangile selon Jean, après l'avoir fait avec 1 Jean. Et vous savez quoi? Jusqu'aujourd'hui et depuis, je l'ai également enseigné. L'Évangile de Jean, 1 Jean, et les autres livres du Nouveau Testament sont restés dans mon esprit. Je pense à l'Évangile de Jean, et je pense au chapitre. Quelqu'un me dit, vous savez, où se trouvent Jésus et le vin? Chapitre 15. Le bon berger. Chapitre 10. Lazare. Chapitre 11. L'arrestation de Jésus. Chapitre 18. La conversation de Jésus avec ses frères, chapitre 7, « Mangez de ma chair et buvez mon sang », chapitre 6, « Le pain de vie », chapitre 6, « Les noces de Cana », chapitre 2, « La femme du puits », chapitre 4, « Nicodème », chapitre 3. Et cela continue, encore et encore. « Le jugement des bons et des méchants », chapitre 5, versets 28, 29, « La page de droite, à mi-chemin, colonne de gauche, juste là, vous voyez ?» Je sais dans mon esprit où tout cela se trouve, et cela se tient bien. Les gens disent, « Oh, quel érudit !» Écoutez, je l'ai lu 90 fois, d'accord? Je l'ai lu 90 fois, et c'est ainsi qu'on apprend, vous voyez. Ésaïe dit qu'on apprend ligne après ligne, précepte après précepte, précepte après précepte, un petit peu ci et un petit peu là. Quand vous étudiez en vue d'un test, vous ne ramassez pas votre livre pour lire les notes une seule fois et le refermer en disant « Voilà, c'est dans la boîte ». Pas si vous êtes normal. Pas si vous êtes comme moi. Vous apprenez par la répétition. La répétition, la répétition. C'est comme cela qu'on apprend la Bible. Et ensuite, vous voudrez vous rendre à Philippiens. Et vous voudrez apprendre le livre de Philippiens. Un autre livre court. Et puis vous voudrez revenir à Matthieu. Ensuite repartir à Colossiens. Et puis revenir aux actes des apôtres, les répartir de cette manière, et puis faire des va-et-vient, entre un petit livre et un grand livre. Vous dites, mais cela va prendre un long moment. Non, dans une période d'à peu près 2 ans et demi, vous aurez terminé le Nouveau Testament. C'est plutôt génial. Puisque vous allez de toute façon lire la Bible, autant la lire de manière à la mémoriser. La plupart des gens disent, « Eh bien, j'ai ma dévotion quotidienne, et je lis mon passage du jour. » Et vous leur dites, « De quel passage s'agissait-il ? » Voyons voir, Et qu'en est-il du passage que vous avez lu il y a 2 ou 3 jours ? Désespérant. J'arrive à peine à me rappeler de celui d'hier. Vous ne pouvez pas retenir grand-chose en avançant si rapidement. Vous devez revenir dessus encore et encore. Et si vous croyez que c'est une parole vivante, elle s'animera dans votre vie, tandis que vous la lisez de manière répétitive. Maintenant, si quelqu'un me demandait de lire le journal ou un roman de cette manière, je lui répondrai que cela ne m'intéresse pas. Mais ceci est une vérité vivante, et elle a un effet productif sur votre vie, lorsqu'elle est lue de manière répétitive. Vous savez, si un grand érudit hébreu, comme le docteur Feinberg, lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament 4 fois par an, que suis-je supposé faire? Je pense à John Wesley, qui se levait à 4 heures du matin chaque jour de sa vie. Prenez ceci et lisez l'Écriture dans 5 langues différentes, pour pouvoir jouir de chaque nuance possible de l'Écriture qu'il lisait. Et il le faisait environ 3 heures chaque matin de sa vie. Je me souviens, lorsque j'étais à Londres, je me suis rendu à son église, et un homme nous a entraînés dans un petit escalier sinueux, jusqu'à une petite pièce, où il se rendait chaque matin. Et il y avait là, posé sur le bureau, ses lunettes, de minuscules petites lunettes, et son petit Nouveau Testament, en langue grecque, et quelques autres livres, cela même que John Wesley avait passé le temps à lire tous les matins de sa vie, à 4 heures du matin, et je pense que c'est là que tout a commencé dans l'étude biblique, juste là. Maintenant, certaines personnes disent, « Eh bien, il faut lire cela dans la même traduction ?»« Eh bien oui, en règle générale. Restez dans la même version pour vous y familiariser. De temps à autre, je pense, ce serait bien de prendre une autre version, juste pour l'élucider. Normalement, je lis bien évidemment la version King James, mais juste pour mon édification personnelle. Il m'arrive de lire invariablement un passage en NAS ou en NIV, New International Version. Ces deux, je pense, constituent les meilleures traductions de comparaison disponibles. Et c'est ici que vous devez commencer. C'est une méthode simple, et c'est tout ce que je vais en dire, parce que je pense que c'est assez évident. Contentez-vous de couler en lisant à travers l'Ancien Testament. Vous pouvez lire de Genèse à Malachie, ou alors suivre un tout autre format que vous pourriez avoir, un petit plan de lecture ou autre. Mais pour ce qui est du Nouveau Testament, lisez de manière répétitive, et, soit dit en passant, en guise de note de pied de page. Cela pourrait vraiment nous aider de lire le livre sur lequel je prêche, pendant que je suis dessus. Maintenant, vous ne serez pas toujours capable de le faire, parce que vous pourriez le parcourir en 30 jours, alors que cela me prend 4 ans. Mais à un moment donné, quand je commence à lire un livre, ou que je commence à enseigner un livre, c'est le moment opportun pour vous de le lire. Maintenant, à quelle question est-ce que cela répond? Lire la Bible répond à cette question. Que dit la Bible? Et nous devons le savoir. Que dit la Bible? Eh bien, pour pouvoir trouver ce qu'elle dit, vous devez la lire. Ensuite, vous saurez exactement ce qu'elle dit. À présent, je vais vous dire une autre chose intéressante qui se produit. Et ceci n'est qu'un commentaire. Mais lorsque vous commencez à lire la Bible, tout simplement en la lisant, juste en la lisant, vous allez vous rendre compte que votre compréhension augmente d'une manière extraordinaire, parce que la Bible explique la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà analysé ma prédication. Je sais que vous l'avez probablement appréciée comme étant bonne, mauvaise ou neutre. Vous avez probablement fait une échelle entre 0 et 10 à la maison le dimanche après-midi, mais en essence, si vous analysez ma prédication, et voici le secret. Je suis en train de le donner, braves gens, ici même. Ce que je fais, en essence, consiste à expliquer la Bible avec une autre portion de la Bible. C'est invariablement ce que je fais. Maintenant, vous savez, et vous pouvez suivre la manière dont je le fais. Et ce qui m'a amené à cela, c'est lorsqu'un homme qui m'est cher m'a demandé un jour si je voulais avoir un ministère riche. Il a dit, « Voici le livre que tu dois avoir. » et il m'a remis une copie d'un livre intitulé « Le trésor de la connaissance de l'Écriture ». Ce petit livre est un livre qui parcourt tous les versets de la Bible et vous fournit des références croisées qui expliquent le passage concerné. Vous croyez que j'avais toutes ces choses dans ma tête? Ce petit livre était quelque chose de formidable. Cet homme m'a dit « Tu prends ta Bible et ce petit livre et tu seras capable de prêcher jusqu'à ta mort. » Et c'est un outil formidable. Pourquoi? Parce qu'il se sert de la Bible pour expliquer la Bible. Et c'est ce qui se passe quand vous lisez. Ainsi, vous êtes en train de relire 1 Jean, puis vous lisez l'Évangile selon Jean, et vous dites « Maintenant je comprends ce qu'il voulait dire dans 1 Jean, parce que cela est en accord avec Jean, chapitre 5. » Ou alors vous lisez Philippiens, vous dites « À présent je comprends cela, parce que c'est expliqué ici. Eh bien maintenant je sais ce qu'il entend par le concept là-bas, parce que je le vois ici. » Et tandis que vous traversez l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu, par exemple, nous avons parlé du divorce, n'est-ce pas? Matthieu 5:31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, etc., etc. Et maintenant, vous lisez dans l'Ancien Testament. Vous parvenez à Deutéronome, chapitre 24. Et là, vous trouvez exactement ce à quoi Jésus fait référence. Ou alors, vous êtes en train de lire, par exemple, dans Jean chapitre 3, et vous vous dites « Vous devez naître d'eau et d'esprit. De quoi est-ce qu'il parle? L'eau et l'esprit. » Et quelqu'un arrive et dit « Eh bien, l'eau fait référence à la poche des os qui entoure le bébé au moment de la naissance. Vous devez naître physiquement et spirituellement. » Non, parce que les Hébreux n'appelaient pas cela la poche des os. Ça, c'est plutôt de l'anglais ou du français. Vous dites « Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, l'eau et l'esprit ?» Au même moment, vous lisez Ézéchiel. Vous arrivez au chapitre 36, et vous trouvez qu'Ézéchiel dit qu'il vient un jour où les hommes naîtront de l'eau et de l'esprit. Ah ah! À présent, nous comprenons que l'eau est la parole, et l'esprit est le Saint-Esprit. Ézéchiel explique ainsi Jean 3. Ainsi donc, quand vous commencez à lire la Bible, vous allez voir plusieurs des brèches se combler, parce que vous êtes capable de la comprendre. Et à ce propos, je dis ceci aux gens tout le temps. Dieu n'a pas écrit un livre pour vous piéger. Ceci n'est pas un livre qui est supposé être une espèce de vérité cachée. Ce n'est pas un livre secret au sujet duquel vous pourriez dire « Ah, ah, Dieu, j'ai découvert ce que tu essaies de dire ici. » Non, c'est conçu pour que vous compreniez. Et les gens disent « Oh, quoi que vous fassiez, gardez-vous de lire le livre de l'Apocalypse. Oh, ce livre est tellement déconcertant. » Eh bien, il est dit dans 1:3 « Heureux celui qui lit. » Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Pas si difficile. Cependant, je vous dirai une chose. Vous ne comprendrez jamais l'Apocalypse, à moins de lire Daniel et Ésaïe et Ézéchiel en entier. Et ainsi, tandis que vous vous contenterez de suivre le flot, tout cela se rejoindra. Et si seulement vous lisiez la parole de Dieu, c'est extraordinaire, la production qui s'installera dans votre vie. Très bien. Deuxième principe. Le premier est de lire la Bible. Le deuxième consiste à interpréter la Bible. Interpréter la Bible. Maintenant, certaines personnes n'interprètent pas la Bible. Elles se contentent de l'appliquer. Elles finissent de la lire et la mettent directement en application sans jamais l'interpréter. Elles n'essaient même pas de savoir ce qu'elle signifie. Elles y passent rapidement en grande vitesse. Premièrement, lisez la Bible, et ce premier point répondra à la question. Que dit la Bible? Le second point, interprétez la Bible. Ce qui répond à la question « Qu'est-ce que la Bible signifie par ce qu'elle dit ?» Nous lisons la Bible. Oh, c'est merveilleux. Elle le dit. Que veut-elle dire par ce qu'elle dit? Et nous devons interpréter. À présent, vous devez interpréter la Bible. Vous ne pouvez pas traiter la Bible comme une aspirine. Ce n'est pas un cachet. Les gens disent toujours « Eh bien, j'ai fait ma dévotion et j'étais juste en train de lire et vous savez, eh bien, j'ai décidé que cela signifie ceci. » Non. Vous devez connaître la signification. Vous vous souvenez de l'eunuque éthiopien qui lisait dans Ésaïe? Et Philippe arrive et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit « Comment puis-je comprendre si personne ne me guide? Je ne peux pas le comprendre. » Par exemple, vous arrivez là et vous êtes en train de lire dans Colossiens, disons, et vous lisez « Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » En vous faisant grâce pour toutes vos offenses, Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Eh bien, quelqu'un dira, « Oh, il y a le mot offense, et il y a le terme effacé. N'est-ce pas merveilleux qu'il nous ait pardonné nos péchés ? Et c'est le plus loin que vous puissiez aller. Si vous n'apprenez pas ce que le reste du passage signifie, il y a beaucoup de prédications de ce genre. On se contente de lire un long. Vous avez déjà entendu un prédicateur se contenter de lire d'un trait, un verset, après un verset, après un autre verset, et puis il tombe sur un mot qu'il comprend et passe une heure à prêcher dessus, sans jamais vous dire ce que signifie le reste du passage. C'est comme l'a dit un type un jour. D'accord, je lis le texte, ensuite je pars du texte. Et troisièmement, je n'y reviens jamais. » Dans Néhémie 8.1, très intéressant. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Très bien, ils vont ramener le livre, tenir la loi de Dieu. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux. Maintenant, c'est là que tout commence. Vous devez lire la Bible. Il s'est levé tout simplement et l'a lu. Il faut la lire, tout simplement. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit, en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. En d'autres termes, en réponse à la lecture, ils ont tout simplement adoré l'Éternel. Mais ensuite, le verset 8 est la clé. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, lire distinctement. Et puis il est dit, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous savez, j'ai eu l'occasion cette année d'être au Conseil international sur l'inhérence biblique. Et ces grands érudits, issus de toute l'Amérique, il y en avait à peu près 250 rassemblés, et ils s'apprêtaient à confirmer au monde entier que chaque parole de Dieu est pure, comme le déclare Proverbe 30. Ils allaient attester au monde entier que la Bible constitue la vérité absolue de Dieu. Chaque mot est vrai. Et pendant 4 jours, ils ont distribué des documents érudits, que je n'étais même pas capable de comprendre. Juste, vous savez, une formidable érudition. Et ils déversaient ce volume de matériel. Et nous transportions ces cahiers de notes monstrueux avec ces terribles papiers théologiques à l'intérieur et de la formidable érudition. Et ils disaient combien il importe que nous soutenions que chaque mot de la Bible est vrai. Et j'ai eu un séminaire à la fin de la conférence, et mon séminaire portait sur « Comment l'inhérence est liée au ministère de l'Église ?» Et j'ai dit ceci. Je trouve impressionnant qu'au cours d'une conférence sur l'inhérence, où tout le monde souligne l'importance de chaque mot dans la Bible, que personne n'ait donné ce message expositoire, qui traite chaque mot. En d'autres termes, pourquoi combattons-nous pour chaque mot, si nous ne prenons pas la peine d'enseigner chaque mot ou d'apprendre ce qu'il signifie. Cela ne suffit pas de se contenter de dire « Nous croyons que chaque parole est vraie » et ensuite prendre un mot sur 45 versets et prêcher un sermon sur cet unique mot. C'est pour cette raison que la seule fin ultime d'un véritable engagement à l'inhérence de l'Écriture consiste à l'exposer, telle qu'elle est donnée par Dieu. Nous devons donc parvenir à « Que signifie la Bible par ce qu'elle dit ?» Et je pense vraiment qu'à plusieurs égards, cela constitue la clé de la croissance de l'Église de la grâce. Je pense que les gens ont surtout répondu. Il y a plusieurs autres raisons, mais l'une des raisons majeures, les gens ont répondu au fait de finir par comprendre ce que la Bible signifie par ce qu'elle dit. Ils ont été dans les ténèbres pendant si longtemps, et nous avons en quelque sorte enfoncé la porte. Et vous savez, ce n'est pas si difficile à ouvrir, parce que Dieu nous a donné sa parole, pour que nous la comprenions et son esprit pour être notre enseignant. Dans 1 Timothée 4:13, Paul dit à Timothée comment prêcher. Voici ce qu'il dit. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, ou encore porte ton attention à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous savez ce qu'il est en train de dire. Écoutez à présent ceci. Il dit, lis le texte, la doctrine, explique le texte, l'exhortation, mets le texte en pratique. On ne se contente pas de le lire pour ensuite l'appliquer. On le lit, on l'explique, et ensuite seulement on l'applique. C'est véritablement ce en quoi consiste le fait de dispenser droitement la parole. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le sermon sur le divorce. Comment les pharisiens s'étaient mis dans le pétrin? Parce qu'ils avaient mal interprété Deutéronome 24. Franchement, c'est l'interprétation erronée qui est à l'origine de l'obsession, sous toutes ses formes. Par exemple, permettez-moi de vous donner certaines choses qui sont enseignées aujourd'hui, sur la base de la mauvaise interprétation. Puisque des patriarches pratiquaient la polygamie, nous devons aussi le faire. C'est ce que certains enseignent. En voici un autre. Puisque l'Ancien Testament a prouvé la légitimité divine du roi d'Israël, tous les rois ont une légitimité divine. Nous avons traversé cela au Moyen Âge. Puisque l'Ancien Testament a prouvé la mort des sorcières, nous devrions tuer les sorcières. Étant donné que certains fléaux de l'Ancien Testament émanaient de Dieu, nous devons tous éviter l'assainissement. Question de surtout ne pas le contrarier. Et qu'en est-il de celle-ci? Parce que l'Ancien Testament enseigne que les douleurs d'enfantement constituent une douleur que les femmes subissent en guise de punition divine. Aucun usage d'anesthésie péridurale ne doit jamais se pratiquer. Ce sont toutes des interprétations erronées. Quelqu'un ne comprend pas ce que la Bible dit réellement, ne comprend pas le contexte dans lequel cela a été écrit. Maintenant, ce n'est pas facile de comprendre tout cela. Je me souviens qu'un homme m'a dit « J'en ai tellement marre d'essayer de comprendre la Bible. Il enseigne la Bible. Il disait « J'en ai tellement assez d'essayer de comprendre la Bible. » J'étais en train de lui parler au lac Hume une fois. Il a dit « J'ai décidé de tout adopter pour tout le monde. » Il disait « J'ai essayé la voie de la dispensation et j'ai tenté la voie de la dispensation modifiée et j'ai essayé la voie de la théologie d'alliance. » Et j'ai tout bonnement décidé d'adopter tout pour tout le monde. Je lui ai dit, « Quand avez-vous rasé vos favoris pour la dernière fois ?» J'ai dit, « L'Ancien Testament demande aux Juifs de ne pas les enlever. Cela s'applique-t-il à vous ?» J'ai dit, « Quand avez-vous offert votre dernier agneau ?» Je dis, « J'espère que vous ne mettez pas des vêtements faits avec un assemblage de laine et de coton. Faites-vous un lavage cérémonial de toutes les casseroles de votre cuisine, avant que votre épouse ne cuisine votre repas cachère. Vous ne pouvez pas tout appliquer à tout le monde. À quand remonte la dernière fois que vous avez tenté de marcher sur le lac d'Hume? Vous voyez, ce n'est pas simple. Une interprétation est nécessaire. Maintenant, pour gérer et interpréter la parole avec précision, il y a 3 erreurs à éviter. 3 erreurs doivent être évitées. Je pourrais beaucoup m'amuser avec ceci. Je vais essayer de me retenir. Premièrement, ne faites pas une affirmation aux dépens d'une interprétation appropriée. N'insinuez pas quelque chose au détriment d'une interprétation adéquate. En d'autres termes, n'amenez pas la Bible à dire ce que vous voulez qu'elle dise. Comme ce prédicateur qui a prêché sur le fait que les femmes ne doivent pas avoir de cheveux empilés sur la tête. Et ce texte était une version tirée par les cheveux de Matthieu 24 où il est dit « Que ceux qui sont sur le toit ne descendent point ». Ce n'est pas ce qu'enseigne le passage. Mais ensuite, et il s'agit d'une illustration bizarre, bien sûr, comique. Cependant, vous pouvez aborder la Bible comme celui qui a dit « J'ai déjà un sermon, il me faut juste trouver un verset pour ça. » Je veux dire que vous avez déjà préconçu votre truc, et vous êtes seulement en quête d'un verset pour le soutenir. Vous savez, de manière invariable, et c'est également d'une confession de ma part, invariablement. Si j'essaie de faire un sermon moi-même, je finis par obliger la Bible à correspondre à mon sermon. Mais, si je vais avec l'intention de comprendre un passage, à partir de la compréhension de ce passage découle un message à partager avec vous. Cela fait donc très longtemps que j'ai renoncé à chercher à faire des sermons, et maintenant, j'essaie de comprendre la parole de Dieu, et à partir de cette compréhension ressort un message. Vous savez, vous pouvez penser à quelque chose de véritablement génial, avec quelques grandes lignes fabuleuses, et quelques jolies petites choses à faire, mais vous devez, en quelque sorte, tordre la Bible pour un tout petit peu insérer tout cela, pour amener la Bible à dire ce que vous voulez lui faire dire. Une fois les rabbins, je me souviens avoir lu cela dans le Talmud, une fois les rabbins ont décidé de prêcher un message sur le fait que les gens devaient prendre soin les uns des autres, parce qu'il y avait un problème social, et les gens n'aimaient pas les autres. Ils se sont donc dit que la grande histoire dans la Bible, qui demande aux gens de s'aimer, c'est la tour de Babel. Et dans le Talmud, cela est interprété de cette manière. Il est dit que la raison pour laquelle Dieu a dispersé tous ces gens, et la raison pour laquelle il a brouillé leur langage, c'est parce qu'ils ont placé le matériel avant les gens. Cela n'a aucun sens, mais c'est ce qu'ils ont dit. Tandis que la tour de Babel s'est levée en hauteur, il a fallu plusieurs heures, un porte-engin, une grue, pour porter le chargement de briques au sommet et permettre aux maçons de poser leurs briques. Si un homme tombait de la tour en descendant, personne ne s'en préoccupait, n'est-ce pas? Puisqu'il ne perdait aucune brique. Mais lorsqu'un gars tombait en allant vers le sommet, ils étaient furieux parce qu'ils perdaient leurs briques. Et c'est pour cette raison que Dieu a dispersé les nations et confondu leur langage, étant donné qu'ils étaient plus soucieux des briques que des personnes. À présent, vous savez quelque chose. Vous devriez vous préoccuper davantage des personnes que des briques. Mais ce n'est pas ce que dit la tour de Babel, et Dieu ne les a pas dispersés parce qu'ils se souciaient plus des briques, mais plutôt parce qu'ils construisaient un système de religion idolâtre. Vous ne pouvez pas tordre la Bible pour qu'elle illustre votre sermon ou vos idées. Alors, ce à quoi vous devez faire attention, c'est de ne pas interpréter la Bible au détriment de sa véritable signification. Permettez-lui de dire ce qu'elle veut réellement dire. J'ai écouté beaucoup de sermons sur 2 Pierre 2:20, sur la manière dont on perd son salut. Vous entendez invariablement l'orateur dit « Si, après avoir échappé aux pollutions du monde, grâce à la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils venaient à se retrouver à nouveau piégés par lui et vaincus, leur dernière condition sera pire que celle du départ. » Et ils disent, vous voyez, juste là dans ce verset, « Vous pouvez échapper aux pollutions. Il est possible d'avoir la connaissance du Seigneur et Sauveur, et cependant tomber, et se retrouver pris au piège, et quand cela arrive, votre dernière condition est pire que celle dans laquelle vous étiez avant de croire. Vous voyez, il est possible de perdre son salut. Ce qu'ils oublient cependant, c'est le mot « île ». Et si vous étudiez le terme « île », au début, vous découvrirez qu'il s'agit du même terme « île » tout au long du chapitre. Et il est question des puits sans eau, des nuages sans pluie, des croûtes, des taches, et des imperfections sur le festin d'amour. Et si vous remontez jusqu'au chapitre 2, verset 1, vous verrez que cela se réfère aux faux prophètes qui suivent des doctrines de démons. Vous ne pouvez donc pas vous servir de ce verset à cet effet, parce que ce n'est pas son contexte. En fait, Paul emploie un terme pour décrire cela quand on le fait. Dans 2 Corinthiens 2:17, il dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. » Ils emploient ici le terme « kapelos ». Et capellos signifie en essence faire du commerce. À la base, c'était un terme employé sur la place du marché. Et cela est en rapport avec le fait de vendre quelque chose avec tromperie, un produit qui n'est pas tout à fait ce qu'on prétend, la falsification. Et il dit qu'il y en a qui falsifient la parole de Dieu, ils la corrompent pour la faire correspondre à leur propre pensée. Je suis étonné lorsque j'entends les gens comme le révérend Ike et ces autres prendre des versets bibliques et les tordre pour leur donner le sens qu'ils veulent. J'ai entendu un type l'autre nuit à la télévision. Il prêchait, et disait « Maintenant, que veut dire la Bible ?» Et puis il donne l'interprétation la plus bizarre et la plus incroyable, et les gens applaudissent. Pour eux, c'était merveilleux. C'était tellement imaginatif. Ce n'était tout simplement pas vrai. Recevez le bon message. La deuxième chose à éviter. Évitez l'interprétation superficielle. L'interprétation superficielle. En étudiant la Bible pour apprendre ce qu'elle dit, évitez d'être superficiel. Les gens diront toujours « Voyons voir, je pense que ce verset signifie ceci. Eh bien, que signifie ce verset pour vous ?» Et vous savez, très souvent, il y a une étude biblique qui n'est rien de plus qu'une mise en commun de l'ignorance, des tas de gens qui s'asseyent tout autour et qui disent des choses qu'ils ne savent pas au sujet d'un verset. Maintenant, je suis pour l'étude biblique. Mais il faudrait que quelqu'un étudie pour trouver le vrai sens, et ensuite, on discute de l'application qu'il faut en faire. Mais ne vous montrez pas superficiel. 1 Timothée 5:17 parle des anciens, qui se dévoue au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Il est vraiment important de ne pas se montrer superficiel. Troisièmement, une autre erreur à éviter. La première erreur que nous avons mentionnée est de ne pas soutenir un point au détriment d'une interprétation adéquate. Deuxièmement, éviter l'interprétation superficielle. Troisièmement, ne pas spiritualiser. Ne spiritualisez pas. Le tout premier sermon que j'ai jamais prêché était un sermon horrible. Mon texte était « Et l'ange roula la pierre ». Mon sermon portait sur « Roulez les pierres de votre vie ». J'ai parlé de la pierre du doute, et de la pierre de la peur, et de la pierre de la colère. Ce n'est pas ce dont parle ce verset. Il est question d'une vraie pierre. J'en ai fait une allégorie formidable. J'ai entendu un sermon sur « Ils ont jeté 4 ancres, et ont attendu le jour ». L'encre de l'espérance, l'encre de la foi. Ces encres étaient uniquement de métal. J'ai entendu des choses des plus incroyables. Je me souviens lorsque nous faisions la série sur le mouvement charismatique. Je vous ai parlé d'une série que j'avais lue sur le livre de Néhémie, où Néhémie représentait le Saint-Esprit, tandis que les murs en ruine constituaient les murs effondrés de la personnalité humaine, et la piscine du roi était le baptême du Saint-Esprit, tandis que le mortier entre les briques représentait les langues. Et ce que Néhémie enseigne, c'est que le Saint-Esprit désire venir dans votre vie, et à travers les langues et le baptême du Saint-Esprit, reconstruire les murs effondrés de votre personnalité humaine. Maintenant, il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir produire cela. Il y a de quoi pousser Néhémie à se retourner dans sa tombe. Je me souviens d'un couple qui est venu ici pour se faire conseiller, et l'un de nos pasteurs l'avait accueilli. Ils avaient des problèmes conjugaux, et je pense que c'était Jerry Mitchell qui les conseillait. Jerry leur a demandé comment se faisait-il qu'ils soient parvenus à se marier, tant ils étaient différents. Et il a dit, c'était à cause d'un sermon que notre pasteur avait prêché. Un sermon sur quoi? Sur les murs de Jéricho. Quel lien y a-t-il entre les murs de Jéricho et le mariage? Ils ont répondu. Il y avait un principe spirituel. On marche autour de quelque chose, on le réclame pour Dieu. On marche autour 7 fois, et les murs finissent par s'écrouler. Le garçon a dit qu'il faut trouver la fille que vous voulez, marcher autour d'elle 7 fois, et les murs de son cœur s'écrouleront. Alors, épousez-la. Jerry a répondu. Non, non, ce n'est pas possible. Personne n'a prêché un truc pareil. Oh que si. Il a dit, je n'arrive pas à y croire. Le garçon lui a passé son numéro de téléphone, et Jerry a appelé le prédicateur. Et il a dit, oui, je l'ai bien prêché. Et j'ai plusieurs autres bons sermons à partir de ce même texte. Voyez-vous, j'appelle cela de la prédication à la petite Bo Beep, une chanson en anglais pour enfants, où une petite fille perd ses moutons. Parce que cela ne nécessite pas une Bible. On peut se servir de tout et n'importe quoi. Vous pouvez perdre la petite Bo Beep. Vous pouvez juste vous lever et dire « La petite Bo Beep a perdu ses moutons. Il y a des gens perdus à travers le monde, vous voyez. Pas besoin de Bible. Elle ne sait pas où les trouver, mais ils reviendront à la maison. » Ah, ils reviendront à la maison. Et puis vous leur racontez une histoire déchirante au sujet d'une personne qui est revenue à la maison, vous voyez, en remuant la queue derrière eux. Vous saisissez le message, n'est-ce pas? C'est tellement facile de faire ça. Et vous savez, beaucoup de gens font cela avec l'Ancien Testament. Ils transforment l'Ancien Testament en un livre de contes de fées, produisant tout genre de choses insensées. Ne spiritualisez pas. Saisissez le sens exact. Je ne serais pas capable de vous dire le nombre de sermons que j'ai écoutés sur ce verset, Matthieu 19. J'en ai fait mention récemment. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai entendu tellement de sermons dessus, et ils disent, « Maintenant, comment est-ce possible pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille ? Eh bien, nous savons que s'il était possible de réorganiser toutes les molécules d'un chameau de manière à former une ligne droite, vous savez, c'est à ce niveau-là que je suis tombé à la renverse. Ou encore, eh bien, voyez-vous, le terme grec rendu par chameau et le mot grec traduit par fil diffèrent d'une seule lettre, et certains scribes l'auraient inversé, et ça aurait donc dû être un fil à travers le trou d'une aiguille. Ou peut-être, avez-vous déjà entendu celle-ci? Il y avait une porte dans la ville de Jérusalem, appelée la porte de l'aiguille, et c'était une toute petite porte pour faire entrer les chameaux. Maintenant, me diriez-vous, pourquoi construirait-on une petite porte minuscule pour faire passer des chameaux? Par ailleurs, aucun archéologue sur la face de la Terre n'est encore parvenu à trouver cette porte. Ce que Jésus dit est ceci. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer au ciel ou dans le royaume de Dieu. Savez-vous pourquoi il a dit cela? Il a dit parce que, d'après la croyance juive, plus on avait d'argent, plus on mettait de l'argent dans les coffres. Plus on avait de l'argent, et plus on achetait des sacrifices, et plus on offrait des sacrifices, et plus on mettait de l'argent dans les coffres, et plus on se rapprochait du royaume de Dieu, ce qui fait que plus on était riche, et plus on avait de chances d'être dans le royaume de Dieu. Et ce que Jésus dit, l'homme le plus riche du monde ne peut pas plus entrer dans mon royaume qu'un chameau peut passer à travers le trou d'une aiguille. Et les disciples ont répondu en disant, « Qui donc peut être sauvé ?» Ils ont saisi le message. « Tu veux dire qu'on ne peut pas être sauvé? Même un homme riche ne peut pas être sauvé ?» Et Jésus a dit, « Aux hommes, cela est impossible. » Ce qu'il essayait de dire était ceci. « Il est impossible pour un homme riche d'acheter son accès dans le royaume. C'est tout simplement aussi impossible que d'essayer de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. » Voilà exactement ce qu'il a signifié. Mais ensuite, il s'est immédiatement tourné tout autour et a dit, « Mais à Dieu, quoi? Tout est possible. » Il essayait de leur montrer qu'ils ne pouvaient pas, avec leur capacité humaine, faire ce que Dieu pourrait faire dans sa puissance. Il y a donc seulement trois choses à éviter. Ne faites pas des interprétations erronées pour arriver à vos fins. Ne défendez pas un point de vue au détriment d'une interprétation adéquate. Évitez des interprétations superficielles. Ne spiritualisez pas et ne faites pas d'allégories. Maintenant, pour pouvoir interpréter la Bible correctement, et nous irons très vite là-dessus. Pour interpréter la Bible de manière adéquate, que devez-vous faire? Eh bien, il faut combler certaines lacunes, d'accord? La Bible n'est pas un livre récent, ok? Elle est là depuis quelques années. Certaines parties ont jusqu'à 4000 ans. Il est donc là depuis un certain temps. À présent, comment pouvons-nous comprendre ce qu'il disait et ce qui se passait sur la scène? Nous devons combler quatre lacunes. Premièrement, la lacune de la langue. Nous parlons le français. La Bible a été écrite en hébreu et en grec, quelques portions en araméen, qui ressemblent beaucoup à l'hébreu. Nous avons donc une lacune linguistique à combler, et c'est pour cela que vous m'entendez régulièrement employer un mot grec et l'expliquer, car autrement, vous ne le comprendriez pas. Par exemple, dans 1 Corinthiens 4:1, l'apôtre Paul dit « Que chacun nous tienne pour ministre de Christ », version Martin, et nous disons « C'est vrai, Paul, tu es un ministre du Christ ». Et ce terme français « ministre » nous fait penser au premier ministre, le ministre de la Défense, vous savez. Le ministre est quelqu'un d'élevé, un terme de noblesse. Toutefois, le mot grec est « hyperotes ». Il signifie un esclave de troisième niveau de galère sur un bateau. Le gars qui se trouve au fond, enchaîné à une pièce de bois, qui ne fait rien d'autre que ramer. Il dit « Lorsqu'on parlera de moi ». Qu'il soit dit que je n'étais rien de plus qu'un esclave galérien de troisième niveau pour Jésus-Christ. Vous voyez, on ne saisit jamais cela à partir des termes français. Pourquoi? Il faut combler les lacunes linguistiques. Il faut couvrir beaucoup de terrain. Et c'est quelque chose de très nécessaire. Par exemple, vous pourriez étudier dans le livre d'Hébreu le mot « perfection » et vous retrouver complètement embrouillé dans votre tentative de comprendre le livre d'Hébreu. À moins que vous ne compreniez que la perfection se rapporte au salut et non à la maturité spirituelle. C'est ce que vous devez découvrir en étudiant les mots, les termes et leurs relations dans le texte. Très important à faire. Et à propos, si vous voulez étudier les mots dans la Bible, le Nouveau Testament en particulier, procurez-vous l'un des dictionnaires Vine. C'est un outil très utile pour quelqu'un qui ne connaît pas le grec. Vous pouvez chercher n'importe quel mot anglais. Et il vous indiquera le sens en grec, et ainsi de suite. Cela aide vraiment beaucoup quand on étudie la Bible. Une bonne concordance vous sera également utile de cette manière. Deuxièmement, il faut combler la lacune culturelle, d'accord? Les cultures sont différentes, je veux dire très différentes. Si nous ne comprenons pas la culture de l'époque où la Bible a été écrite, nous ne comprendrons jamais le sens voulu. Par exemple, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ne s'est-il pas contenté de dire « Avant sa naissance, Jésus existait déjà, au commencement ». Cela aurait réglé pas mal de problèmes pour nous. Mais, voyez-vous, il emploie la parole, parce que c'était le jargon à cette époque, et il était en train de dire aux Grecs « Cette chose qui est à l'origine de tout, cette puissance cosmique, n'est rien d'autre que cette parole qui est devenue chair. Et pour les Juifs, le terme parole était toujours la manifestation de Dieu, car la parole du Seigneur, la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur était toujours Dieu, émanant, sa personnalité. Ainsi donc, lorsqu'il disait « la parole s'est faite chair » ou « la parole habitait parmi nous » ou « la parole était dans le monde » ou « la parole a créé », il identifiait Jésus-Christ, le Christ incarné, comme Dieu. Ainsi, dans ce texte, vous voyez qu'il fait converger la pensée grecque et la pensée hébraïque avec un terme adéquat, qui saisit les deux au point vital, et c'est pour cette raison qu'il emploie ces termes. Et je dis donc que cela continue à travers toute la Bible. Nous devons combler un fossé culturel et une distance linguistique. Donc, très important, si vous manquez de comprendre le gnosticisme qui existe au moment de la rédaction du livre de Colossiens, vous ne comprendrez pas ce livre. Si vous ne comprenez pas la culture qui était celle des judaïsants, qui s'installaient dans les églises païennes, vous ne comprendrez pas le livre de Galates. Si vous ne comprenez pas la culture juive, vous ne pourrez pas comprendre l'évangile de Matthieu. Une compréhension culturelle est nécessaire, et c'est bien de lire des livres qui vous aident sur ces points, Edersheim et certains documents de Barclay, bien que sa théologie soit fausse. Certaines de ses connaissances relatives à la culture sont très bonnes. Troisièmement, il faut combler le fossé géographique. Vous lisez au sujet de « Et ils descendirent à Jéricho ». Que voulez-vous dire par « descendre à Jéricho » Eh bien, si jamais il vous arrivait de vous y rendre, vous comprendrez ce que cela signifie que de descendre. Ils sont montés à Jérusalem. Jérusalem est certainement en hauteur. C'est en hauteur par rapport à n'importe quel autre point. En hauteur, sur un haut plateau. Dans 1 Thessaloniciens, il est dit « En effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est retentie si rapidement. Depuis le moment où Paul y a séjourné, en est parti et a écrit, il s'est écoulé très peu de temps. Et vous dites, comment est-ce possible que les Thessaloniciens n'aient eu Paul parmi eux que pendant 2 semaines et que leur témoignage ait cependant touché tout leur monde connu? Comment est-ce que cela a pu se faire? Et puis vous étudiez un tout petit peu la géographie. Vous découvrez qu'il y avait une chose qui traversait le centre de la cité de Thessalonique et qui était connue sous le nom de la voie Egnatienne, qui était le principal couloir de l'est à l'ouest. Tous ceux qui allaient dans les deux directions passaient par la Thessalonique. Tout ce qui s'y passait était transmis tout le long de la ligne, ce qui fait qu'une petite connaissance géographique enrichit la compréhension. Vous entendez que le Seigneur Jésus-Christ traversait la vallée de Kidron pour monter prier sur le mont des Oliviers. Et vous entendez que pendant la Pâque, ils abattaient littéralement des milliers d'agneaux. Il est estimé que le quart de million d'entre eux pouvait être abattu au cours d'une seule semaine. Ils massacraient ces agneaux. Le sang coulait à l'arrière du temple, descendait derrière le mont Sion et directement dans le ruisseau de Kidron, ce qui fait qu'il était rouge de sang. Et quand Jésus marchait hors de la ville, traversant ce petit ruisseau, il devait enjamber le sang de tous ces agneaux sacrificiels, un formidable rappel de son propre sang qui allait bientôt être versé et qui allait ôter le péché du monde. Vous voyez, une toute petite connaissance de la géographie, le ruisseau et ce à quoi il servait rend tout de suite la chose plus riche. Et je pense au fait que lorsque Jésus a ramené Lazare d'entre les morts, la nouvelle est parvenue à Jérusalem si rapidement. Savez-vous pourquoi? Parce que Béthanie fait d'eau au côté est de Jérusalem si proche. Ce qui se passe à Béthanie se trouve à seulement 1,5 mile ou 2 miles du domaine du temple, et les nouvelles se seraient répandues plus vite qu'un feu de brousse. Ce qui fait que les gens se sont mis à regarder à celui qui avait ressuscité un homme d'entre les morts. Nous devons fermer certaines de ces brèches. La langue, la culture, la géographie et l'histoire en est une autre. Si vous connaissez un peu l'histoire, cela aide vraiment. Je n'oublierai jamais, pendant que j'étudiais l'évangile de Jean, comment toute la clé pour comprendre ce qui s'est joué entre Pilate et Jésus a reposé sur la connaissance historique. Quand on comprend la situation romaine, si on comprend les choses stupides que Pilate a faites lorsqu'il est entré dans le pays, comment il est arrivé en brandissant de grandes banderoles avec l'image de César dessus. Et bien entendu, puisqu'ils adoraient César et le culte de l'empereur, était une religion, Cela constituait une idole et a littéralement mis les Juifs en colère, rendant leurs prêtres furieux. Ainsi donc, Pilate avait pris un mauvais départ dès le début. Pilate a ensuite tenté de mettre quelque chose sur le dos des Juifs, et on l'a attrapé là-dessus. Et un rapport a été fait à Rome, à son sujet, et il a presque perdu son travail. Il avait donc déjà beaucoup transpiré avec le peuple juif, au moins 2 reprises. Plus tard, il y a eu un 3e faux pas à son actif. Maintenant, quand on arrive à Christ, Pilate redoute les Juifs, et c'est pour cette raison qu'il laisse le Christ être crucifié. Pourquoi avait-il peur? Parce qu'il avait déjà un dossier pourri qui avait été renvoyé à Rome et il savait que son poste était en jeu. C'est donc le genre d'histoire que nous devons comprendre pour ouvrir le sens de la Bible. Vous pouvez obtenir cela de quelque chose comme Zondervan's Pictorial Dictionary ou un dictionnaire biblique de votre choix et cela vous enrichira. Vous devez interpréter la Bible et cela signifie fermer ses brèches. On entend toujours les gens dire « Je ne lis aucun livre ». Je fonce directement vers la Bible. Ce n'est pas de la piété. C'est tout simplement de la stupidité, parce qu'il faut étudier les sources et les documents d'arrière-plan pour comprendre. Je veux dire que j'aimerais bien entendre quelqu'un donner une exposition claire sur Shur, Moab, Maher, Charal, Kash, Baz, Kalné, Karkemish et Mishmash, sans l'aide d'un commentaire ou d'un dictionnaire biblique. Vous auriez bien du mal. Nous devons donc utiliser de bonnes sources. Maintenant, tandis que vous interprétez, en vous servant de sources, vous devez combler un fossé linguistique, un écart culturel, une lacune géographique et une brèche historique. Quels sont les principes dont vous vous servez? Écoutez très attentivement tandis que je les parcours. Premièrement, le principe littéral. Il consiste à employer un principe littéral. Je vais juste vous en donner 5 rapidement. Cela signifie que vous comprenez l'écriture dans son sens littéral, normal, naturel. Bien sûr, il y aura des figures de style, mais cela fait également partie de la langue normale. Il y aura des symboles, c'est également de la langue normale. Mais quand vous parvenez aux passages apocalyptiques comme Zacharie et Daniel, et Ézéchiel et Ésaïe, et Apocalypse, et que vous voyez des bêtes et des images, vous comprenez qu'il s'agit de figures. Et vous savez que ce sont des symboles, mais qu'ils véhiculent, observez ceci, une vérité littérale. Vous prenez la Bible dans son sens normal, naturel. Adoptez le sens littéral, normal, naturel. Vous savez, vous devez toujours vous méfier lorsque quelqu'un arrive et déclare « Il y a un sens caché là ». Ils emploient le verset « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et ils veulent donc cette méthode allégorique. Ne vous contentez pas de prendre ce qui est dit. Allez derrière le sens caché, le sens secret. Vous savez qui sait ce dont il s'agit? Personne. Personne ne sait. Il fabrique de toutes pièces. Prenez la Bible dans son sens littéral. Deuxièmement, nous devons suivre le principe historique. La Bible doit être étudiée dans son contexte historique. Nous l'avons déjà mentionné. Qu'est-ce que cela signifie pour ceux pour qui cela a été dit ou écrit? Un texte sans contexte historique constitue un prétexte. Si vous lisez Philippiens 1 et lisez au sujet des grandes déclarations de Paul dans ce passage, vous devez savoir, lorsqu'il parle de ceux qui prêchent Christ par esprit de dispute, et ainsi de suite, qu'importe, je me réjouis qu'il soit prêché. Vous devez comprendre le contexte historique, sinon vous ne comprendrez réellement jamais ce qui est dans son cœur, le principe historique. Troisièmement, le principe grammatical. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il faut examiner la phrase, les prépositions, les pronoms, les verbes et les substantifs. Nous apprenons à schématiser une phrase pour pouvoir découvrir son sens. Par exemple, dans Matthieu 28, la grande mission. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et les enseignants de garder tout ce que je vous ai commandé. Version Martin. D'abord, vous lisez « Allez ». Cela résonne comme un verbe. Dans le monde entier, prêchant l'Évangile, faites des disciples, baptisant, enseignant. Ils résonnent tous comme des verbes. En entrant dans la phrase « Cependant », vous vous apercevez qu'il n'y a qu'un seul verbe. Et l'unique verbe est « Matetesete », faire des disciples. « Allant » n'est rien de plus qu'un participe. Baptisant est un participe. enseignant est un participe, ce qui signifie qu'il modifie le verbe principal. Ce que la grande mission dit, c'est de faire des disciples, et pour faire des disciples, il sera nécessaire d'aller, de baptiser et d'enseigner. Si vous comprenez cela, alors la plénitude de ce concept ressortira de ce texte. C'est donc ce en quoi constitue l'étude grammaticale, juste en guise d'illustration. Laissez-moi vous donner un autre exemple dans Matthieu 18. Je pense que c'est une bonne. Combien de fois avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'il s'agit d'une réunion de prière, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom? Je suis là, au milieu d'eux. Les amis, deux ou trois d'entre nous sont là. Le Seigneur est présent. Écoutez, vous voulez savoir quelque chose? Si je suis là tout seul, le Seigneur est là. C'est exact. Ce verset n'a rien à voir avec une réunion de prière. Et si vous prenez le temps d'étudier le contexte, vous allez vous en rendre compte. Si vous étudiez la grammaire qui entoure cela, vous allez vous en apercevoir. Ce qu'il dit, c'est que lorsque vous allez appliquer votre discipline, exclure quelqu'un de l'Église, je suis là, au milieu de vous. Lorsque vous avez confirmé son péché par la bouche de deux ou trois témoins, et vous apprendrez cela si vous étudiez le texte, vous devez donc examiner la grammaire, mais très soigneusement, pour que vous la compreniez vraiment. En fait, j'ai entendu Hébreux 12. Je me souviens lorsque j'étais enfant. J'écoutais le sermon le plus intimidant de ma vie sur Hébreux 12. Je ne l'ai jamais oublié. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et le prédicateur a dit, « Tout le monde vous regarde. Que voulez-vous dire par tout le monde ?» Tout le monde, du chapitre 11 d'Hébreux. Enoch, Abraham, Moïse, et il continue en citant tous ces grands héros de la foi. Il vous observe pour voir comment vous vous en sortez dans la vie chrétienne. C'est très troublant. Ma première réaction était, « N'ont-ils donc rien de mieux à faire? Qu'est-ce qui va se passer quand nous allons tous arriver là-haut? Qui observera quoi ?» Ce n'est pas ce que cela signifie. Au chapitre 11 d'Hébreux, vous avez toute une liste de personnes qui ont vécu par la foi, et au chapitre 12, ce qu'il dit, c'est que cette nuée de témoins sont des témoins qui attestent que la vie bénie est la vie de foi, et on devrait apprendre de leurs témoignages. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient assis dans les tribunes, à vous regarder. Cela vient de la compréhension de la grammaire, le texte. Quatrièmement, le principe de synthèse. Nous avons un principe littéral, un principe historique, un principe grammatical et un principe de synthèse. C'est ce que le réformiste appelle l'analogia scriptura. Les écritures se rejoignent. En d'autres termes, observez à présent ceci. Une portion de la Bible n'enseigne pas quelque chose qu'une autre portion contredirait. Ce qui fait que lorsqu'on étudie l'écriture, tout doit être cohérent. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous êtes en train de lire 1 Corinthiens, et vous arrivez là où il est question de baptême pour les morts. Oh, dites-vous, eh bien, il y a une nouvelle doctrine. Si on se fait baptiser, on peut aussi se faire baptiser pour une personne décédée, et cela va les sauver. C'est ça, le baptême pour les morts. Maintenant, attendez une minute. La Bible permet-elle qu'on se baptise pour une personne morte? Cela se trouve-t-il à un quelconque endroit dans l'Écriture? Cela contredit-il la doctrine du salut telle que nous la connaissons? Alors, cela ne peut pas être l'interprétation de ce passage, étant donné qu'aucun passage, en et de lui-même, ne contredit l'enseignement de l'Écriture, et c'est le principe de synthèse. J. I. Packer dit merveilleusement, « La Bible apparaît comme un orchestre symphonique, dont le Saint-Esprit est le Toscanini. » Chaque instrument a été apporté de manière délibérée, spontanée, créative, pour jouer sa note exactement, comme le grand conducteur l'a désiré. Bien qu'aucun d'eux ne puisse jamais écouter la musique globale, le point de chaque portion ne devient pleinement clair que s'il est considéré en lien avec tout le reste. Vous savez ce que cela me dit, le principe de synthèse. Il n'y a véritablement aucune contradiction. Ce qui semble être une contradiction peut être résolu. Si nous avons l'information, parce que la Bible converge dans sa globalité. Cinquièmement, le principe pratique. Le principe pratique. Vous dites, John, je veux dire, tout ceci est tellement brumeux, là-haut dans l'air, le principe littéral, et toutes ces autres choses. À quel moment est-ce que cela va atterrir, là où je vis? C'est le principe pratique. La question finale est « Alors quoi ?» Tandis que je m'efforce d'interpréter la Bible, comment savoir ce que cela signifie pour moi? Et ceci est génial. Assurez-vous, lors de vos études bibliques, de trouver le principe pratique. J'ai une petite phrase que j'emploie lorsque j'enseigne ce cours, et c'est ceci. Apprenez à faire des principes à partir de l'Écriture. Lisez-la et trouvez. Quel est le principe spirituel dans le passage qui s'applique à moi? Mais vous ne pourrez le faire qu'après être d'abord passé par les autres principes, le littéral, l'historique, le grammatical et le principe de synthèse. Et une fois que vous savez ce qu'il signifie par ce qu'il dit, alors vous pouvez arriver à comment cela s'applique à vous. C'est donc ainsi qu'on interprète la Bible. Et pendant que vous lisez à travers la Bible et que vous lisez à travers l'Ancien Testament, maintenant et plus tard, travaillez sur certains de ces passages qui posent problème, ou prenez peut-être un livre et contentez-vous d'y travailler tranquillement. Vous pourriez ne pas avoir assez de temps pour le faire. Au moment où vous effectuez cette lecture, il se pourrait qu'il ne vous reste que 15 minutes par jour. Mais commencez avec ce peu. Lisez un tout petit peu dans un dictionnaire ou un commentaire et commencez à mettre certaines choses ensemble. Et efforcez-vous de trouver quel est le sens littéral. Quel est le contexte historique? Quelle est la structure grammaticale? Comment est-ce que cela s'harmonise avec le reste de l'Écriture? Et comment est-ce que cela s'applique à moi? Lisez donc la Bible et interprétez la Bible. Et très rapidement, je vais juste ajouter quelques trucs à la fin et vous laisser partir. Troisièmement, méditez sur la Bible. Méditez la Bible. Ne soyez pas pressé. Et je n'ai même pas besoin de dire davantage à ce sujet. Excepté vous rappeler que l'Écriture dit « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront en ton cœur » version Martin. Deutéronome 6 « Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu t'en entretiendras quand tu demeureras dans ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » En d'autres termes, ces choses doivent traverser votre pensée en permanence. À présent, voulez-vous savoir quelque chose? Je vais vous dire un secret. Si vous lisez à travers l'Ancien Testament et que vous lisez un livre du Nouveau Testament 30 fois de suite tout le temps, vous aurez ce truc dans votre esprit. Et la méditation est ce qui prend toutes ces portions, les forge ensemble pour constituer une compréhension cohérente de la vérité biblique. Dieu a même dit dans Deutéronome 6 « Et tu les liras pour être un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. » Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu dit, « Je veux que ma parole soit partout. Je la veux dans votre bouche, lorsque vous vous levez, vous couchez et vous asseyez. Je la veux devant votre maison, sur vos portes. Je la veux sur vos bras, pendantes, entre vos yeux. Je la veux partout. » Et vous savez, nous vivons dans une culture où vous remontez et descendez la rue en voiture et que voyez-vous? Je veux dire que vos yeux sont littéralement assaillis par des ordures, n'est-ce pas? Des publicités de whisky, des publicités de bière, et des séries télévisées, et des films pourris, et des choses ordurières qui se déversent dans votre tête. Et Dieu dit, prenez ma parole, et laissez-la être un panneau d'affichage devant vos yeux, qu'elle recouvre vos bras, remplissant votre pensée, votre voix, où que vous alliez. C'est comme ça que ça devrait être. Il a été demandé à un type une fois, « Quand vous n'arrivez pas à dormir, comptez-vous les moutons ?» Il a dit, « Non, je parle aux bergers. » C'est ce que Dieu désire que son peuple fasse. Parlez aux bergers, méditez. Psaume 1:2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui fait quoi ? La médite jour et nuit. Comme la vache rumine, l'illustration proverbiale le dit, le redit, et le dit encore. Les vaches ont plusieurs panses, et elles se contentent de faire passer les aliments d'une panse à une autre tout au long du processus de digestion. Nous devons donc lire la Bible, étudier la Bible, méditer sur la Bible. Quatrièmement, finalement, enseigner la Bible. Vous voulez savoir ce que j'ai découvert? La meilleure manière d'apprendre consiste à transmettre, le saviez-vous. Les choses que j'apprends suffisamment bien pour vous enseigner sont celles que je retiens. Laissez-moi vous dire quelque chose, braves gens. Vous êtes ma source spirituelle d'énergie, c'est vrai. si vous n'étiez pas là pour m'obliger à me présenter ici avec un sermon chaque semaine. Je me demande si j'extrairais tout cela. Je sais que vous serez là à me dire « MacArthur, nous voici, dis-nous ». Et c'est cette prise de conscience constante que je dois vous enseigner qui me force à apprendre. Et je vais vous dire autre chose. Voulez-vous savoir? C'est très facile d'être difficile à comprendre, le savez-vous. Si vous écoutez parler quelqu'un et que vous ne comprenez rien de ce qu'il dit, alors il ne comprend probablement pas son sujet. Si un type n'est pas clair, c'est qu'il ne comprend pas son sujet. C'est très facile d'être difficile à comprendre. C'est très difficile d'être clair, car pour pouvoir être clair, il faut maîtriser son sujet. Ainsi donc, en tant qu'enseignant, on est obligé de maîtriser son sujet, au risque de ne jamais être clair. Plusieurs fois, les gens me disent « Eh bien, vous savez, je ne comprends pas. Rien ne se passe dans mon église. J'enseigne la Bible. » Les gens sortent en disant « Il enseigne la Bible, et pourtant je ne sais pas de quoi il parle. » Il faudrait que ce soit clair. Si vous enseignez, vous allez le retenir. Contentez-vous de nourrir quelqu'un d'autre, et vous verrez comment cela nourrit votre cœur. Je crois que la motivation personnelle à étudier découle de la responsabilité. Si je n'avais personne à enseigner, je ne serais pas productif. Juste en guise d'illustration. Je vais chez moi vendredi. J'ai eu 2 jours pour préparer ceci. Eh bien, 20 ans de réflexion en réalité. Mais 2 jours pour le rassembler. Je l'ai fait. Si je n'avais pas dû enseigner ceci jusqu'à dimanche prochain, je ne l'aurais pas fait. J'aurais juste lu quelque chose et j'aurais en quelque sorte continué ma route lentement. Mais je rends grâce à Dieu pour la pression que vous mettez sur ma vie pour faire ceci. Je ne peux pas me permettre de venir un dimanche et dire « Eh, j'ai le sermon le plus génial. Je pense qu'il sera prêt d'ici mardi. Vous ne viendriez pas mardi. » Ce genre de pression m'oblige à m'y coller pour pouvoir comprendre. Eh bien, j'espère que cela vous aide à démarrer. Lisez la Bible, interprétez la Bible, méditez la Bible et enseignez-la. Et quand vous aurez terminé tout ça, vous savez que quelqu'un sera susceptible d'attraper une grosse tête et de dire « Eh bien, je suis arrivé, j'ai tout maîtrisé. » Souvenez-vous seulement de Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Quand vous aurez tout dit, et vous aurez tout fait, et aurez tout appris, vous n'aurez même pas encore gratté la surface de l'infinie pensée de Dieu. Mais vous savez quel est l'objectif. Permettez-moi de vous dire ceci. Je dois le dire. Votre objectif est d'apprendre la parole de Dieu, et non d'acquérir des connaissances. Car, comme dit Paul, la connaissance fait quoi? Enfle. Votre objectif est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est apprendre l'humilité. Vous voyez. Connaître Dieu, c'est apprendre la véritable humilité. Eh bien, prions. Père, je suis reconnaissant pour la patience dont les gens ont fait preuve ce soir, étant donné que nous avons été longs, et pourtant il semblerait que nous ayons eu un moment si merveilleux à partager ensemble sur la nécessité d'étudier la parole de Dieu. Seigneur, cela pourrait être un tout petit peu accablant pour certains de ses bien-aimés, et c'est souvent aussi le cas pour moi, de faire tout ce que je dois faire pour connaître ta parole. Seigneur, aide-nous à commencer quelque part, au moins avec la lecture, et petit à petit, commencer à interpréter des choses. Tandis que ces braves gens font des notes sur leurs marges et reviennent avec le désir de les comprendre, montre-leur les bonnes sources, les bons livres, ou bien conduis-les à écouter d'autres enseignants qui pourraient les aider. Aide-nous donc, Père, à méditer sur la parole. Et ensuite à enseigner afin de faire le tour du cycle. Premièrement la recevoir de toi, et puis finalement la transmettre à quelqu'un d'autre. Oh, quel temps béni nous avons eu ce soir! Fais de nous des personnes de la parole. Je sais que tu lis mon cœur, et la profonde gratitude que j'ai pour la fidélité de ces gens qui sont venus ce soir ouvrir leur cœur à cette chose indispensable qu'est le fait d'étudier ta parole. Merci, Père, pour l'ouverture. Je te prie que tu les récompenses d'avoir un tel désir et de démontrer une telle fidélité en accomplissant ta bonne parole dans leur vie, non seulement tandis que cela se clarifie dans leur esprit, mais également tandis qu'ils le vivent dans leur cœur. Dans le nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.